Je suis amoureux d'un tigre, chapitre 4.
Je range Darou ma borgne dans ma chambre au milieu de mes jouets, de mes livres. Le premier jour, Katimini le renifle avec méfiance, puis ils deviennent mon copain. Je n'explique pas à Roméo et Virginie ce que signifie l'œil manquant. Je dis simplement qu'il s'agit d'un cadeau de mon ami. Ils sont contents. Avant Sonoko, j'étais triste, sans aucun camarade. Je me promène presque tous les jours avec Sonoko. On se balade dans le quartier, je lui montre mes endroits favoris. Les squares, les manèges, une grande boutique de jouets avec des billards, des châteaux de cartes, des kilomètres de train électrique du côté de la Bastille.
Elle me raconte ses histoires de tigre, le jour où elle a escaladé la tour Eiffel et manger le président de la République, la fois où encore, au Japon, elle s'est battue contre un dragon dans le cratère d'un volcan. Moi, je ne parle de café, du café d'Aquignon. Plus je la vois, mieux ça marche en classe. Je me dispute moins, le directeur m'oublie. Le soir, après nos promenades, je fonce vers le café. Je l'aime, il brille jaune et chaud, comme un petit soleil. Dans ma chambre, avant de m'endormir, je me tords le cou pour repérer la lanterne d'Asakusa et peut-être la chambre de Sonoko au premier étage. Parfois, Sonoko me demande « Dis, tu ne m'invites pas chez toi ?»« Moi aussi j'ai envie qu'elle vienne, mais d'abord je dois devenir nous. Pourquoi pas ? Elle est bien tigre !»
Quand je suis seule, je me creuse la tête pour renifler comme un lion, ronfler, rugir comme lui. Romain et Virginie prétendent en riant que chaque jour, je sens davantage le sable, la jungle, la savane. Et un jour, ça marche. Ça arrive d'un coup sur la place de la République. Il fait beau et je m'installe devant le grand lion en bas de la statue. Je ne bouge pas. Accroupi sur le trottoir, le menton entre mes mains. Il y a un manège, un stand d'auto-tamponneuse, une roue de loterie, des centaines de gens qui entrent et qui sortent du métro. Des brasseries, des grands magasins, parfois les garçons de l'école passent et me crient.
Je ne fais pas attention à eux. Je ne regarde que l'animal statufié et petit à petit, je deviens lion. J'attrape des oreilles rondes, une crinière qui claque au vent, de grosses pattes et d'énormes rugissements au fond de ma gorge. Je me lève brusquement, fonce jusqu'au quai de GMAP et braille en claquant la porte du café. Ça y est, je suis un lion. Katimini se nettoie les moustaches entre deux bouteilles d'apéritif. Je lui hurle sous le museau « Je suis un lion !» Il lâche un miaulement dégoûté et s'enfuit à toutes pattes. « Je suis vraiment le roi des animaux !»
Roméo et Virginie me regardent interloqués, mais je cavale déjà dans la rue. C'est mercredi, j'ai rendez-vous avec Sonoko. Je galope à sa rencontre. Elle porte un bandeau noir sur ses cheveux, une blouse de soie noire. Je ne la laisse pas ouvrir la bouche. Ça y est, je suis un lion. Elle m'examine d'un œil soupçonné. Oui, alors, raconte-moi une histoire de lion. Je l'entraîne vers le canal. Viens voir.
Tous les deux, on se penche sur l'eau. On rapproche nos têtes et je commence. L'autre matin, j'étais un lion et j'ai décidé de prendre des vacances en péniche. D'un coup, j'ai eu soif. J'ai commencé à boire tellement boire que j'ai avalé toute la Seine et que la péniche s'est retrouvée sur un tas de cailloux. Les éclusiers s'arrachaient les cheveux de désespoir, mais ils n'osaient rien me dire puisque j'étais un lion. Elle rit de bon cœur. Ensuite, tu as fait quoi ? Je suis redevenu Benjamin et j'ai acheté 3 billets d'avion. Londres pour boire la Tamise, Vienne pour gober le Danube et Moscou pour laper la Volga. Sonoko rit. Je me sens heureux, je propose. Maintenant, je t'invite chez moi.
Au café, je la présente à Roméo et Virginie. Ils rigolent, on dirait qu'il va offrir un cigare.
Virginie pianote une polka sur la caisse enregistreuse. Je montre le bar à Sonoko la façon de présenter un express ou un crème, de couper la mousse de la bière avec une spatule de bois et le saucisson aussi fin que possible. On se regarde ensemble dans le miroir. Au fond du café, on se ressemble avec nos yeux fendus, nos cheveux noirs, les siens longs et soyeux, les miens en franges coupées au bol. Ça me fait plaisir.
Ensuite, on escalade l'escalier jusqu'à ma chambre. Sonoko se penche à la fenêtre. Ravie regarde la scène. On se croirait en bateau. Et on aperçoit le quai de Valmy, la lanterne, ma fenêtre. On s'assoit sur mon lit et j'avoue, j'ai un cadeau, je l'ai préparé pour toi. Je lui offre ma collection de sucres volés à Virginie ou mendiés aux clients. Plus de 100, des fleurs, des oiseaux exotiques, des clowns, des drapeaux, des navires, des locomotives. Je les garde depuis que j'habite chez Roméo et Virginie. Sonoko aime surtout le toucan, Lara et la claravelle de Christophe Colomb. J'ai l'impression que du haut de son étagère, le daruma m'adresse un clin d'œil.
Le samedi suivant, les papiers arrivent enfin. Je peux rester à la péniche jaune pour toujours. Roméo et Virginie s'embrassent, m'embrassent. Ça dure un temps fou. Ce maudit catimini profite pour vider un pot de rillettes. Je grimpe dans ma chambre. Je dessine un œil de travers au pauvre Daruma. Ensuite, je fonce rejoindre mon ami. Sonoko m'attend sur le pont. Je lui prends les mains. Je veux t'embrasser. Elle est d'accord. On s'embrasse là, au milieu du pont. C'est drôle, une peau de fille. Doux comme une oreille de chat. Chaud comme une fenêtre au soleil. Et frais comme une brune sur la Seine. Et puis, je lui demande, on recommence, mais sur la pointe des pieds. Elle rit. Pourquoi, Benjamin ? Je lui souris, pour être plus grand et s'embrasser plus fort, comme les grands. Mais on ne passe pas sa vie à s'embrasser. Alors, Sonoko et moi, on devient un tigre souple et féroce, un lion farouche et un lion farouche et furieux. Et on s'en va chasser la gazelle et l'hippopotame dans les rues de Paris.